Chapitre 12. Oui, j'avais 11 ans, répondit-il en soupirant. Qu'est-ce qui avait déclenché cette crise? Un homme qui travaillait pour mon père a frappé mon meilleur ami, car il avait mal effectué une tâche ménagère. Il l'a tellement cogné que mon ami a fait un malaise et qu'il a dû être transporté à l'hôpital en urgence. Je n'étais pas présent quand ça s'est passé, mais quand je suis rentré, mon oncle m'a tout raconté. Qu'avez-vous fait après avoir appris la nouvelle? J'ai été pris d'une rage folle. J'ai attrapé un manche à balai et je me suis dirigé vers l'homme. Quand il m'a vu, il s'est mis à rire car je ne lui faisais pas peur, comme j'étais minuscule. Mais je l'ai roué de coups, je savais où ça faisait mal. Il était en sang et je n'arrivais pas à m'arrêter de le tabasser. Je voulais qu'il souffre autant que mon ami. Je voulais le voir pleurer et me supplier. Personne n'a osé m'écarter de lui, car c'était ma première vraie crise de rage. Amir ne laissera jamais personne toucher à Ayman sans se battre. « Est-ce que vous regrettez votre geste ?» demande le psychologue. Amir sourit en coin. « Pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Ce fils de putain méritait de crever pour avoir touché à mon pote. Je n'avais jamais eu tant de haine contre quelqu'un. »
Vous avez eu beaucoup de crises de ce genre ensuite ?
Amir réfléchit. Quand j'étais gamin, ça arrivait fréquemment. Mais jamais quand on me portait des coups. Seulement quand on s'en prenait à mon meilleur ami ou à ma tante. Alors, j'étais instable et je ne me reconnaissais plus. Il arrivait parfois que je me réveille en sang sans me rappeler les atrocités que j'avais commises.
Intéressant. Comment réagissaient vos proches lors de vos crises ? Et comment parvenaient-ils à vous calmer ?
Amir rit nerveusement. Mon père demandait à ses hommes de m'enchaîner dans une cave de notre villa, puis il me donnait des médicaments pour que je me calme. Ensuite, il prenait un fouet qu'il utilisait pour frapper chaque zone de mon corps. Je me rappelle hurler en sentant le fouet quand j'étais petit. J'ai arrêté de crier quand j'ai compris que ça ne servait à rien. Je me taisais et acceptais ma sanction.
C'est affreux. Je me mords la lèvre pour réprimer la tristesse profonde qui m'envahit. J'imagine Amir crier, enfant, car son père le fouette et ça m'arrache le cœur. Quelles étaient les autres punitions que votre père vous infligeait?
Ça dépendait de son humeur. Il pouvait m'offrir comme punching ball à ses hommes ou faire le sale travail lui-même. Quand c'était l'été et que le soleil tapait suffisamment fort, il me mettait dans notre jardin et me contraignait à rester à 4 pattes toute la journée sous la chaleur. En hiver, il me déshabillait et me faisait rester dehors toute la nuit. Il n'acceptait pas souvent que je dorme dans la baraque. Il s'amusait aussi à me frapper avec tout ce qu'il trouvait, barres de fer, bâtons, ustensiles de cuisine, outils. Mais son passe-temps favori, c'était de m'enchaîner dans la cave sombre et de laisser les rats me bouffer pendant plusieurs jours avant de me fouetter.
Amir parle avec une nonchalance déroutante. Je suis sûre qu'il a très mal vécu tout ça. Pourtant, il simule l'indifférence la plus totale.
Ce que vous avez subi est terrible,
commente le thérapeute.
Amir hausse les épaules. Ça aurait pu être bien pire, déclare-t-il avec indifférence.
Bien pire? Et comment?
Pourquoi votre père vous infligeait-il ça?
Le questionne le docteur. Il voulait m'endurcir. En réalité, il prenait un malin plaisir à me terroriser et à me faire souffrir. Il aimait que je sois tétanisée à sa vue. Il était craint par ses hommes, mais ce n'était rien du tout comparé à la crainte qu'il m'inspirait.
Je ressentais exactement la même chose pour Ahmed, mais moi, je n'avais pas réellement peur de ce qu'il pouvait me faire, car j'ai toujours su qu'Ahmed était un faible. Je craignais surtout qu'il s'en prenne à Maria pour me punir.
Amir a multiplié les allers-retours à l'hôpital durant son enfance à cause de son père, ce qui est indéfendable. Il aurait pu mourir ou finir handicapé. Il a eu de la chance de survivre à toutes les violences qu'on lui a infligées.
Vous pensez que votre père vous aimait ?
Un rire nerveux s'échappe encore de la bouche d'Amir.
Il me détestait et me voyait comme un boulet. Il a accepté que je vive uniquement pour faire plaisir à son frère. J'étais comme un cadeau d'anniversaire pour Naël, mais une fourmi avait plus de valeur que moi aux yeux de mon père. Naël voulait sincèrement que je vive. Il pensait que je pourrais faire changer Ousni et que notre famille devait avoir un héritier. Si Naël n'avait pas été là, je serais mort depuis bien longtemps. Si je suis en vie, c'est uniquement grâce à lui.
Amir se perd dans ses pensées.
Je me souviens qu'une fois, Naël m'a emmené chasser dans une forêt quand j'avais 8 ans, mais j'ai été incapable de tirer sur un lapin. J'étais horrifiée à l'idée de faire du mal à cette pauvre bête innocente. Mon père a débarqué et il a vu la faiblesse dont j'avais fait preuve. Je l'ai supplié de pardonner mon manque de courage. Il m'a frappé avec son pied et son poing, m'a insulté de tous les noms possibles et imaginables. Mauviette, faible, lâche, et j'en passe. Il se contracte en se rappelant ce souvenir. Puis, il a sorti une arme de derrière son pantalon et il a joué à la roulette russe avec moi. Il m'a dit que la prochaine fois que j'hésiterais à tuer un animal, il me tuerait, car il n'accepterait jamais d'avoir comme fils un faible qui pleure comme un lâche. J'ai envie de vomir. Certaines personnes ne devraient pas avoir le droit d'avoir des enfants si c'est pour les traiter de cette façon. Comment une personne saine d'esprit peut jouer à la roulette russe avec un enfant de 8 ans? C'est inhumain d'être aussi cruel. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense subitement à ma mère. Je me demande si ma vie aurait été différente si elle avait été là. Votre oncle Naël n'est pas intervenu pour vous défendre? L'interroge le psychologue. Je n'arrive pas à comprendre comment son oncle a pu laisser Amir devenir la victime d'Ousni. Il était forcément au courant. Il a donc fait l'autruche. Naël n'était pas comme mon père. Il avait le cœur pur. Il m'aimait sincèrement. Il m'a appris énormément de choses. Mais il n'a jamais osé s'en prendre à son frère pour moi. Il m'aimait, mais pas au point de se dresser contre Ousni. Mon père le tenait par les couilles. Avec le recul, vous en voulez à Naël? Amir expire. Je lui en voulais, quand j'étais gamin, de ne pas avoir le courage de se dresser contre mon père. En grandissant, j'ai compris qu'il nous protégeait tous. Ousni était un monstre. Il avait besoin d'un punching ball vivant, et il valait mieux que ce soit moi que mon meilleur ami ou ma tante. Je suis reconnaissant à Naël de pas être intervenu, car si Ousni avait touché à Eimen ou Dilara, je ne me serais pas retenu. J'ai toujours été prêt à tout encaisser tant que j'étais sa seule victime. Vous vous rendez compte que vous n'étiez qu'un enfant et que vous avez accepté de vous faire maltraiter pour éviter à vos proches de vivre ça? Ça me fend le cœur d'imaginer Amir si petit et vulnérable. Il devait être terrorisé par son père, sans aucun moyen de se défendre. Tout ce qu'il pouvait faire était de prendre son mal en patience. J'étais un enfant, mais c'était mon fardeau. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre souffre à cause de moi. En grandissant, je me suis enfermé dans ma solitude et dans ma cruauté. Amir me jette un coup d'œil furtif avant de continuer. Je suis devenu un monstre sans humanité ni état d'âme, car mon père m'y a forcé. Il fallait que je sois un barbare pour être digne de lui. J'étais constamment humilié et insulté. Il passait son temps à me qualifier d'erreur. Il insultait aussi ma mère. Il n'avait aucun respect pour ma personne. J'étais son jouet. Ça me dégoûte. Le thérapeute hoche la tête. Si vous pouviez dire quelque chose au petit Amir de 8 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Amir sourit. Je lui conseillerais de dire à tante Dilara qu'il l'aime plus que tout et qu'elle est irremplaçable. Je l'ai perdu très récemment, et je me rends compte que je n'ai jamais réussi à lui dire à quel point je la respectais. J'ai dû lui donner quelques signes d'affection jusqu'à mes 3 ou 4 ans, après quoi je me suis toujours montré méprisant à son égard. Il détourne les yeux. Elle méritait mieux qu'un gamin cruel et froid, mais c'était ce genre d'enfant que j'étais. J'aurais voulu la prendre dans mes bras tous les soirs et lui dire qu'elle comptait énormément pour moi, mais je n'ai pas réussi. Je n'arrivais pas à agir comme ça, ce n'était pas moi. Je suis touchée de savoir qu'Amir pense à cette pauvre Dilara, même s'il n'en parle plus. Je suis consciente que sa mort a été une épreuve extrêmement difficile et qu'il essaie encore de remonter la pente. Certains soirs, il fait des cauchemars et hurle son prénom, puis il se réveille en sueur, tendu. Je dois alors le serrer contre moi pour qu'il se calme et se rendorme. Le psychologue prend des notes dans un calepin noir. Quel rôle a occupé votre tante dans votre vie? C'était la figure maternelle. Elle était loin d'être parfaite, mais à mes yeux, elle l'était. Son âme pure d'enfant en faisait une femme admirable. Mon cœur est pourri de l'intérieur depuis que je suis gamin, mais elle a toujours fait en sorte de voir le meilleur en moi. Je l'aimais sincèrement. Elle méritait tout mon amour. Admet Amir. Le docteur regarde attentivement Amir, puis lui sourit. Vous savez ce que je remarque là?
que malgré toutes les horreurs que vous avez subies, vous parlez de votre tante avec énormément d'amour et de bienveillance. Vous dites que votre cœur est pourri, mais il bat bel et bien. Vous aimiez votre tante plus que tout, c'est indéniable. Amir se fige et serre les poings. J'ai une cicatrice en forme de croix au niveau du biceps que mon père m'a faite quand j'avais 11 ans à l'aide d'une lame, juste après que j'ai tué mon premier homme. Cette cicatrice me rappelle que je suis le fils d'Ousni Ben Khalif. Il tenait à ce que je n'oublie jamais que son sang coule dans mes veines. Quand j'étais enfant, j'étais tellement stupide que j'étais fière de cette cicatrice car j'y voyais un signe d'affection de sa part. Vous cherchiez la reconnaissance de votre père? Je voulais qu'il m'aime comme je l'aimais. J'étais aveuglée par les liens du sang qui nous unissaient. Je croyais que le fait qu'on partage le même sang pouvait tout excuser, mais j'avais tort. Mon père a commis des choses impardonnables et monstrueuses. J'aurais pu pardonner ce qu'il m'a fait, mais je ne peux pas excuser les horreurs qu'il a infligées aux autres. Amir me scrute. Si j'avais continué de l'aimer, j'aurais été indigne de l'amour de ceux qui m'ont toujours aimé et défendu. Il ne méritait pas une once de mon amour, ni même que je l'appelle « papa ». Il a participé à ma conception, et ça s'est arrêté là. J'ai longtemps cru que j'avais une dette envers lui, mais je ne lui dois strictement rien. Je sais qu'il dit ça par rapport à Ahmed. Je hoche la tête pour lui faire comprendre que j'ai saisi son message. Je ne peux pas aimer un homme qui a fait souffrir tous mes proches, même s'il prétend avoir changé. Ahmed a eu un comportement impardonnable. Je n'ai pas le droit de l'excuser, ne serait-ce que par respect pour Maria. Il l'a violée et humiliée pendant 8 longues années. Il ne mérite pas mon amour. Il s'est amusé à me martyriser publiquement toute ma vie. J'ai toujours fermé les yeux car c'est mon père, mais je ne lui dois strictement rien moi non plus. J'ai payé toutes mes dettes à son égard. Il faut qu'il sorte de ma vie. J'aimerais pouvoir lui donner une seconde chance et entretenir une relation saine avec lui, mais c'est trop tard. Il n'a pas détruit l'amour que j'ai pour lui, car je continue de l'aimer malgré ses horreurs, mais il a brisé toute la considération que j'éprouvais pour lui. Je comprends, compatit le psychologue. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui sur ce sujet. J'aimerais maintenant en savoir plus sur votre rapport aux femmes et vos relations sexuelles. Amir roule des yeux. J'écoute. Pourquoi avez-vous autant de mal à avoir une relation sexuelle conventionnelle avec une femme? Quand j'avais 13 ans, j'ai surpris mon père en train d'abuser d'une femme. Il s'agissait de l'une des cuisinières de notre réseau. Elle l'a supplié de la laisser partir en promettant de n'en parler à personne. Mais il se fichait de ce qu'elle disait. Il a été si brutal avec elle qu'elle s'est suicidée 2 jours plus tard. Amir se raidit. J'ai été incapable de la défendre. J'étais si terrifiée par mon père que je n'ai pas pu bouger. J'étais déjà un gamin violent par nature, mais à compter de ce jour, j'ai développé une hantise de reproduire le comportement de mon père. Je n'ai jamais accepté qu'une femme me touche, car je craignais de ne pas pouvoir me contrôler. Je préfère mourir que de causer du tort à une femme et de la détruire. Je comprends mieux ses difficultés. Il a assisté à un viol perpétré par son propre père et il n'a pas réussi à sauver cette femme des griffes de celui-ci. Amir a grandi dans la peur de devenir comme son père. J'ai longtemps craint de devenir aussi cruel qu'Ahmed, puis j'ai compris que lui et moi n'avions pas le même cœur. Cette histoire est sordide, affirme le docteur. Mais vous devez comprendre que vous n'êtes pas votre père. Vous parvenez à avoir des rapports avec votre femme? Amir me jette un regard indescriptible. Je suis capable de contrôler mes pulsions grâce aux seringues que je m'injecte en amont. Je n'ai pas envie de lui faire de mal. Mais je suis conscient que sans les seringues, je suis instable. Je préfère pas prendre de risques. Alex hoche la tête puis réfléchit en nous considérant tous les deux. Ce n'était pas prévu, mais j'aimerais tester quelque chose sur vous. Il se lève et nous fait signe de le suivre. Il ouvre une porte sur le côté de son bureau et nous entrons. Il n'y a qu'un lit de place dans cette pièce. Je sais que vous allez trouver ça très étrange, mais j'ai besoin de voir comment Amir réagit en situation d'excitation pour déterminer la nature du problème. Cette pièce dispose d'un micro qui me permettra d'entendre ce qui se passe, mais je ne verrai rien. J'ouvre grand les yeux, choqué.
Il croit sincèrement que je vais coucher avec Amir et le laisser nous écouter? Jamais de la vie. Espèce de voyeur. Je m'insurge. Gros pervers. Je commençais à vous faire confiance, mais vous êtes un grand malade. Je sais que ça peut être très gênant pour vous, mais ça pourrait nous éclairer. Tente le thérapeute. Hors de question, on s'en va. Je crache. Amir me rattrape et m'adresse un grand sourire qui ne présage rien de bon.
C'est toi qui voulais venir, non? On reste.
Évidemment, j'aurais dû me douter qu'il allait être d'accord pour une connerie pareille. Tout ce qui a un rapport avec le sexe saisit son intérêt. Le seul truc qui aurait pu le freiner, c'est que le psy puisse nous voir. Mais il continue de sourire comme un imbécile.
Ça peut m'aider à aller mieux,
ajoute Amir. Je soupire en sachant pertinemment que ce n'est pas sa principale motivation. C'est juste un test, renchérit le docteur.
On fera tous les tests que vous voudrez, n'est-ce pas, poupée?
Je le fusille du regard en voyant son sourire s'élargir. Il prend un malin plaisir à jouer avec mes nerfs, car je suis responsable de notre venue. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
Êtes-vous d'accord?
Me questionne le psychologue. Je le suis. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça, mais ça peut être utile.
Très bien, dit le thérapeute. Je vous laisse seul dans la pièce pendant 5 minutes. Le but n'est pas de vous voir copuler, mais uniquement de savoir jusqu'où Amir peut aller avant de céder à ses pulsions. Je vous dirai quand vous pouvez vous arrêter.
Il sort. Amir s'installe sur le lit et je m'assois à côté de lui en soupirant. Il s'en amuse.
Je suis content d'être venu finalement.
Va voir ailleurs si j'y suis, je rétorque.
Jamais.
Je soupire. Je ne savais pas pour ta cicatrice au biceps. Elle m'avait intriguée lors de notre première rencontre en prison, dans cette cellule d'isolement.
Tu l'avais remarquée? Elle n'est pas très visible.
Évidemment que je l'avais remarquée puisque je matais son corps. Bien sûr. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais elle marque ton biceps en forme de croix et ça capte l'intérêt. Il hausse les épaules puis enlève sa veste de costume. Il retire sa chemise, perdu dans ses souvenirs. J'aperçois sa cicatrice et la caresse tendrement. Nous avons tous des plaies qui nous marquent, je déclare. Mais c'est pas grave. Le plus important est de se rappeler comment on les a eues et de se dire qu'on est des survivants. Il ouvre grand les yeux devant mon sourire.
Tu vois toujours le meilleur même dans le pire, Kiara. C'est une qualité qui te rend remarquable,
murmure Amir en souriant. Je veux lui répondre, mais il pose d'un coup ses lèvres sur les miennes. Je suis prise de court, mais je me laisse faire. Son baiser se fait de plus en plus pressant sous son désir ardent. Nos langues se mettent à danser ensemble, en osmose, comme si elles ne formaient plus qu'un. Il me plaque contre le lit et ses mains se baladent sur mon corps. Il écarte mes jambes et se place au-dessus de moi. Je sens son entrejambe se durcir contre mon intimité et il se met à se frotter contre moi. Je gémis sous ses caresses. Il délaisse mes lèvres pour embrasser avidement mon cou. L'une de ses mains agrippe mon corps pour le presser contre le sien alors que l'autre essaie de déboutonner mon pantalon. Je laisse ma tête partir en arrière pour savourer ce moment de plaisir. Il attrape ma main et la pose sur son entrejambe, puis il rapproche ses lèvres de mon oreille qu'il mordille.
« J'ai besoin que tu me touches ici, »
murmure-t-il. Il pousse un grognement rauque, je m'apprête à le caresser quand... « Vous pouvez vous arrêter, » dit le psychologue dans un haut-parleur. Amir l'ignore et continue de m'embrasser le cou et de se presser contre moi. Je suis prise d'un désir ardent alors qu'il faut absolument qu'on s'arrête.
« Amir, arrêtez-vous. »
Il continue. « Amir, ça suffit maintenant. » ordonne le thérapeute. Il l'ignore encore.
« Si vous ne vous arrêtez pas, je serai contraint d'entrer dans la pièce. »
nous prévient le psychologue. Amir soupire sans cesser de m'embrasser. Il sent mon parfum puis se redresse et reboutonne sa chemise. Il enfile de nouveau sa veste de costume, visiblement frustré. Je me relève aussi et me rhabille pour rejoindre le psychologue. Amir le scrute avec nonchalance, tandis que je suis rouge de gêne.
« Ce sera tout pour aujourd'hui, » annonce le docteur. « Je pense sincèrement que vous pourrez vivre correctement sans utiliser vos seringues si vous arrivez à vous débarrasser de vos démons du passé. » Vous n'êtes pas une cause perdue, Amir. Quant à votre souci sur le plan sexuel, ce n'est pas irréparable puisque vous avez tout de même la capacité de réfréner vos pulsions en vous contraignant. J'aimerais vous suivre pour vous aider. Quand vous vous sentirez prêt à revenir, faites-moi signe. Amir acquiesce vaguement. Merci pour cette séance, murmure-t-il. Il ressemble à un enfant. Il ne me laisse même pas le temps d'en placer une qu'il attrape mon bras pour me faire sortir du bureau. Je salue le psychologue.